je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole de grâce qui est venue au travers des différents chants que nous avons chantés pour te glorifier. Merci de nous avoir donné d'être assis à tes pieds pour écouter le message de vie. Nous te prions de nous donner des oreilles de discipline et un cœur pour comprendre et entendre. Nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis tous dans le nom du Seigneur. Ce n'est pas une prédication de plus que je veux vous apporter, mais bien au contraire, un message de la part de Dieu. Car il faut faire la différence entre le message et les prédications. Les prédications, nous pouvons les avoir dans tout temps, les sectes et les adeptes des non-chrétiens. Mais un message, c'est le cœur de Dieu qui est traduit auprès de son peuple. Moïse était quelqu'un qui avait un langage embarrassé, cependant il y avait un message. Voilà la différence. Et il faut écouter le message de Dieu par amour pour nous. Lorsque nous contemplons la parole de Dieu, la Bible dit, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Alors, nous allons partager le message du Seigneur ce matin qui sera en quelque sorte, on dirait une politique générale, non. Mais un message qui nous permettra chacun de prendre une résolution personnelle et ensuite une résolution collective. Dans le cadre de cette pensée que nous avons reçue et sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure, pour prier. Ne pensez plus au passé. Ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je veux faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler les fleuves d'eau vive. Et les fleuves d'eau vive ne sont rien d'autre que la parole du Seigneur. Le rôle de l'eau, c'est de purifier, c'est de désaltérer, c'est de rendre fécond. Et si nous voulons être fécond, c'est être exposé à la parole du Seigneur. Et c'est ce que l'Esprit du Seigneur nous conduira ce matin dans sa parole. Alors, nous allons lire le premier texte de 3, Marc, chapitre 4, verset 36. Après avoir envoyé la foule, il, les disciples, l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Écoutez, c'est ils, les disciples, qui amenèrent qui? Généralement, c'est Jésus qui amène ses disciples. Mais là, c'est les disciples qui l'amenèrent avec lui dans la barque. Voilà la différence. Où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Vous comprenez? Mais vous pensez que dans ce texte-là, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Et c'est ce texte dans lequel ils allaient être confrontés à la tempête. On va lire le second, Matthieu chapitre 14, verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. En quelque temps, on ne lira pas tout le contexte, mais je vous le rappellerai. Et le dernier, dans le livre des Actes. Un temps assez long, là on est dans un contexte où l'apôtre Paul est transféré en Italie à Rome pour combattre. Et pour aller en Italie, il est obligé de prendre un bateau. Et le bateau va être confronté à de naufrage. Mais avant cela, le voilier veut recueillir la vie de l'expert et celui de l'homme de Dieu. Il opterait pour la vie de l'expert et celui de l'homme de Dieu. C'est ça le texte. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devait être dangereuse. Car le jeûne était déjà passé. On continue. C'est pourquoi Paul leur dit, donnez cet avertissement, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. On continue.
se fier au pilote et au capitaine du navire plutôt qu'aux paroles de Paul. L'objectif de ce message est d'atteindre l'autre bord. C'était qu'après avoir parlé à des foules, Jésus va inviter ses disciples à monter dans la barque et d'aller de l'autre côté, où ils auront à affronter le procès de 1000 légions dont il sera délivré. Atteindre l'autre bord. Ce bord dans la parole de Dieu reste vague. Et il restera vague pour chacun d'entre nous, pour que chacun personnellement définisse ce que c'est que l'autre bord. L'autre bord, pour moi, ne serait pas le même que pour toi. L'idée à retenir est que dans une entité, qu'elle soit vivante ou pas, cette entité est appelée à prospérer dans une dynamique positive ou à s'appauvrir dans une dynamique négative. Et l'Église n'échappe pas à ça. Et chacun individuellement n'échappe pas à ça. Et s'il y a des nouvelles pour laquelle nous nous employons à souhaiter bonne année aux gens, reste une année neutre comme le temps. Elle deviendra bonne ou mauvaise en fonction de ce que je mettrai dedans. Dites-moi, combien de temps les gens vous ont souhaité bonne année et que parfois dans votre vie, certaines situations n'ont pas changé, bien au contraire, empiré. Est-ce que c'est le fait qu'on vous souhaite bonne année que les choses seront meilleures, ou alors c'est ce que vous mettez dans l'année qui va le déterminer bonne ou mauvaise? Alors pour moi, bonne année, c'est davantage de présence de Dieu dans notre vie. C'est lui qui est notre avant-garde et celui qui est notre arrière-garde. Il est à notre droite et il est à notre gauche. Voilà ce que Dieu veut. Et pour que nous soyons dans la présence de Dieu, Dieu envoie sa parole pour nous rappeler dans sa présence. C'est pour ça, lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, mes bien-aimés, écoutons-la avec toute l'énergie de notre âme, de notre cœur. Parce que c'est ça, notre vie. Aller à l'autre bord peut aussi signifier s'étendre. Gagner en influence quant à notre témoignage de chrétien. C'est à la fois s'améliorer, quitter une mauvaise habitude que nous laissons de l'autre côté pour aller vers une habitude qui est meilleure, n'est-ce pas? Beaucoup de gens prennent des résolutions, mais souvent c'est difficile à tenir. Peut-être les trois premiers jours, mais après, la nature nous rattrape et on passe à travers. C'est quelque part, nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Il y a quelqu'un qui peut faire ce travail en nous, au travers de nous. Pour non seulement nous sauver du monde, du diable, c'est notre ennemi qui est dans le monde, et voilà bien, écoutez-moi bien, pour nous sauver de nous-mêmes. Il y a des fois que nous posons des actes autodestructeurs, ça que nous le savons. Et donc la parole de Dieu vise non seulement à nous sauver du monde, mais à nous sauver de nous-mêmes. Isaïe dira, agrandis la tente où tu vis, tant l'étoile supplémentaire, ne regarde pas à la dépense, allonge tes cordages, consolide tes pieux, car tu vas t'agrandir à gauche et à droite, et ta postérité possédera le pays. Et les actes que nous posons ne sont pas pour nous, pour nos enfants et pour nos arrière-enfants. Voilà ce que veut dire la parole du Seigneur. On laisserait l'héritage. Le chrétien ne vit pas de manière légère. Il pose des actes. Si c'est pour lui, que Dieu soit béni. Mais souvent, les actes que nous posons, c'est pour notre génération qui vient. Voilà la vie du chrétien. Si l'existence humaine est à l'image d'une traversée, comment se définira-t-elle cette traversée? Comment la négocierez-vous? Parce que lorsque vous êtes en voiture, vous ne regardez pas les mêmes paysages, dites-moi. Si vous prenez peut-être l'autoroute, il y a des visages monotones. Mais si vous prenez parfois les nationales, ici un village, ici un cours d'eau, ici ce sont les enfants qui jouent, ici, il y a d'autres activités. Donc, tout le long du parcours, nous sommes appelés à observer des paysages avec des activités différentes. Et sur le chemin de la foi, c'est la même chose. Le peuple de Dieu a quitté l'Égypte vers la terre de Canaan. Ce n'est pas le même paysage. Même dans le désert, ils ne voyaient pas la même chose. Et c'est ça, la traversée de la marche chrétienne, que nous continuons, parce que le temps, il est neutre. Cependant, il y a des échéances qui se dressent devant nous, pour lesquelles nous avons besoin de prendre des résolutions. Si nous voulons aborder cette marche, se dressent à nous sans doute des oppositions, à l'image des disciples qui veulent prendre la barque pour aller de l'autre côté. Ils se sont retrouvés confrontés à des éléments naturels qui sont devant contraire. Et c'est là où le choix s'impose. Soit on est enfant de Dieu, on s'appuie sur Dieu, soit on s'appuie sur autre chose. Et souvent, le premier effet, c'est quoi? C'est de s'appuyer sur nous-mêmes, c'est-à-dire sur l'homme. Faire confiance à notre propre moyen et à notre science. Je suis maître de mon destin. Je suis le capitaine de mon âme. Ça, c'est le vers qui est issu d'un poème intitulé Invictus, qui a été traduit au cinéma par la plume d'un écrivain britannique, William Ernest Henley, qui veut dire « J'ai le contrôle de ma vie. J'ai la maîtrise de ma vie. » Vous voyez, il parlait tout à l'heure d'un mot qui est très important et que je vous invite à développer cette année. Lâchez prise. Lâchez prise. Dieu veut faire le travail à notre place, mais si nous le faisons déjà, il ne le fait pas. Laissez-le faire. Ça, c'est la grâce. Proverbe chapitre 3, verset 5 dit ceci. Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends, et il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse. La sagesse est la clé d'une situation. Mais reconnais l'autorité du Seigneur. Détourne-toi du mal. Ça, c'est la Bible qui le dit. Et si nous regardons dans la parole du Seigneur, Jésus est venu traiter le mot M-A-U-X des hommes, en quoi faisant, en annonçant la parole de Dieu, dont le but est de traiter le péché. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle du péché. Vous savez qui n'aime pas qu'on parle du péché? C'est celui qui a le moteur. C'est celui qui l'entretient. Mais Dieu veut nous débarrasser. Il n'y a pas de grâce de Dieu sans libération du péché. Écoutez-moi bien. Il n'y a pas de grâce de Dieu sans libération du péché. C'est quand on est libéré de péché qu'on est placé dans la grâce du Seigneur. Mais si le morceau qui a demandé à Dieu de bénir le diable, il n'y a pas de grâce de Dieu sans libération du péché. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous bénir en nous extrayant du péché. Et même si nous sommes encore faibles, il y a une chose qui est très importante, c'est la foi. Seigneur, je me place sous ton sang. Dieu ne peut pas regarder mon péché au travers du sang de Jésus. D'où est l'importance de présenter le Christ dans son sang. Cachez-vous dans le sang de Jésus. Quelle que soit la densité de péché, si vous vous cachez dans le sang de Jésus, Dieu ne peut pas vous toucher. Parce qu'il respecte le sang de son Fils. Et le sang, c'est la source de la vie. Quand Dieu nous envoie sa parole, il y a quelque chose qui se produit, et je m'en vais vous le dire. Quand on parle de la régénération, c'est que le souffle de Dieu qui est dans la parole rentre en nous. Il touche notre sang, il cherche les abîmes du péché pour l'extraire. Et nous avons la nature de Dieu. C'est ce qui se passe, c'est un miracle. Et vous ne pouvez pas vivre ce miracle en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous envoie sa parole. Quand vous vous levez, vous ne vous rendez pas compte que l'autre un seul votre dos, sur votre pied. Mais vous vous sentez libre par la suite. Et la parole de Dieu est ainsi. Exposer à la parole de Dieu devient pur. Ça, c'est le premier point. Ne pas s'appuyer sur sa sagesse. Et parfois, on s'appuie sur notre sagesse. Le deuxième point, c'est de faire confiance aux sciences de l'homme et de ses connaissances, plutôt que de placer sa confiance en Dieu et dans sa parole. Et c'est là où on tombe dans Actes chapitre 27. Si les sciences élaborées par l'homme ont généré des progrès indiscutables, et ça c'est vrai, elles ne sont pas sans susciter des inquiétudes quant à sa motivation. Vous savez mon regard là. Aurait-elle trahi l'attente de l'homme, la science? Sera-t-elle responsable des maux que connaissent les hommes en dehors de certains de ses bienfaits, la science? C'est pourquoi il est dit que la science sans conscience est la ruine de l'âme. La science se trompe parfois. Pour ceux qui ont fait de la physique et de la science quantique, on vient de découvrir qu'Einstein s'est trompé dans le calcul qu'il avait fait tout récemment, à peine un mois. Alors que depuis des décennies, les gens fonctionnaient avec la théorie qu'il a donnée. Regardez comment l'on peut nous conduire sans le savoir. L'histoire des épinards. Vous disputez vos enfants pour manger des épinards parce que ça donne du fer, n'est-ce pas? Faux. Le calcul était faux des épinards. Vous voyez comment on peut construire notre vie sur les choses que nous recevons comme idées reçues et qui en réalité c'est faux. Vous direz que c'est les experts qui l'ont fait en nutrition. Manger des épinards et on gourme nos enfants avec des épinards alors qu'on nous aurait manger autre chose. Et ce Albert Einstein, il va dire ceci. Il est illusoire et dangereux de tout entendre de la science. Car la connaissance de ce qui est de la science ne nous renseigne jamais sur ce que nous devons être. La science peut nous permettre de réaliser des buts que nous nous fixons, mais la détermination de ces buts est en dehors de son domaine. Cela relève du Créateur. Voyez-vous? Voyez-vous? Et Jérémie dira, voici ce que déclare le Seigneur. Malheur à celui qui détourne son oreille de ma parole et qui met sa confiance dans l'être humain, qui cherche sa force, son appui dans le pauvre moyen humain. Or, le tableau du voyage de Paul, présenté dans l'acte, nous montre que l'apôtre Paul a donné son opinion et son opinion a été méprisée. Mais l'officier romain avait davantage confiance en qui? En l'opinion du capitaine et du propriétaire de bateau que dans les paroles de l'homme de Dieu, Paul, et de son Dieu. Les propos de Paul peuvent être vus sous deux angles. Le point, c'est qu'il est possible que, par ses paroles, l'apôtre Paul est en train de prophétiser des événements à venir, contre lequel il est en train de mettre le peuple de Dieu en garde. C'est-à-dire, il est en train de proclamer un avertissement. Et je peux vous avouer que la parole de Dieu à 80% est composée d'avertissements. Si quelqu'un veut vous donner une autre parole qui peut vous mettre à l'aise sans vous déranger, détrompez-vous. La parole dérange toujours. Et c'est quand ça nous dérange que ça nous arrange à nouveau. Si la parole ne vous dérange pas, il ne peut pas vous arranger. Deuxième option. Si le premier était l'avertissement, le deuxième serait quoi? C'est que l'apôtre Paul est celui qui a vécu les naufrages trois fois de suite. Il sait ce que c'est que les naufrages. Et il connaît aussi un annonciateur. Moi, je traverse les Cévennes, je rencontre le personnage. Et quand il regarde les nuages dans le ciel, il sait que cette nuage va apporter la pluie ou non. Parce qu'il le ressent dans ses jambes, il le ressent dans son corps. Ils ont des signes qui leur permettent de comprendre le langage de la nature. Et l'apôtre Paul a entendu dire attention, ce voyage-là, je ne le vois pas. Et le voyait, il a méprisé la parole de Paul et il a parole des officiers, des experts. C'est ça. Des experts. Combien d'experts ont défilé sur le plateau de télévision lorsque le Covid est tombé? Et ils se contredisent. Ils se contredisent. Combien d'experts? Vous pensez qu'il y a une expertise beaucoup plus grande que celle de Dieu? Lui qui a créé l'homme et tout. Entre l'expert de Dieu et l'expert humain, vous voulez l'expertise de quoi? Le voilier a déjà choisi ses experts. C'est pour le dire que dans les temps qui vont venir, la meilleure façon pour l'aider de nous tourner, c'est de nous envoyer des messages à dormir debout, à nous distraire. Sous forme de science à laquelle beaucoup y croient, du contraire. Moi j'y crois, mais pas du contraire. Parce que la science ne peut pas expliquer une guérison miraculeuse. Mais je crois à la parole du Seigneur. C'est une façon de me dire, dans les temps qui vont venir, il y aura des événements qui vont se produire. Vers qui vous allez vous courir? Quand les fondements de la terre sont ébranlés, le juste que ferait-il? Voilà toute la question. Et la suite va nous montrer que le bateau, il va aller à la dérive. Le bateau fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent et nous avons tous été entraînés à la dérive. Et beaucoup de chrétiens ressemblent au voilier. Leur marche dépend du vent qui souffle. Ils font beaucoup plus confiance à l'expertise humaine, à l'expertise divine, qui se trouve dans sa parole. Encore, faut-il s'exposer à la parole du Seigneur. Quand dit-on qu'une personne est à la dérive? Aucune embarcation est à la dérive. Aller à la dérive, c'est avancer sans direction précise, sous l'effet du vent et des courants. C'est perdre de sa direction normale. Être le jouet des flots, être sans énergie, sans volonté, in fine, ne pas réussir. Et ça résume le mot péché, manquer le but. Le monde vit sous l'autorité de Christ de ce monde. Et le monde a toujours méprisé Dieu et sa parole. En sorte que l'Église est dépositaire de la grâce de Dieu et la porte-parole de Dieu, qui sont censés sonner de la trompette pour réveiller conscience. Quand on parle de la trompette dans le livre d'Apocalypse, contrairement à l'image générale que les prêtres vont nous montrer, un ange avec une trompette dans la bouche, ça ne veut pas dire ça. Sonner de la trompette, c'est dire une vérité qui réveille les consciences. Sonner de la trompette, c'est toucher le point sur lequel Dieu réveille la conscience de l'être humain afin que celui-ci, dans un esprit d'humilité par la repentance, vient auprès du Seigneur et obtient la grâce. C'est ça la trompette. Ce que je suis en train de faire, c'est en train de sonner de la trompette. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas un prédicateur. Comprenez-vous? Le résultat, quand on n'écoute pas la voix de Dieu, le monde est sans boussole. Les crises se multiplient aux crises. Tant qu'une situation n'a pas encore trouvé une solution, qu'une autre tombe dessus, et ceux qui nous dirigent sont perdus. Crise sur crise. Et c'est Dieu seul qui a la solution. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle ce matin. Le tissu social est sans muraille de protection. Voilà pourquoi la Bible dit. Vous récoltez les fruits de vos conduites. Vous serez éclairés par vos propres machinations. Car refuser la sagesse cause la perte des ignorants. Et l'insouciance détruit les gens stupides. Par contre, la personne qui m'écoute vivra en toute sécurité, sans avoir à craindre le malheur. Acceptons le Christ. Refusons-nous en lui, en vue d'être secourus au moment convenable. Les déséquilibres écologiques que nous subissons, qui créent parfois certaines pandémies, certaines pathologies, pour lequel la science est complètement démêlée. Et même si la science parvient à obtenir une solution, il va tergiverser pour des raisons financières la cupidité et la situation de son pays. Alors la Bible va s'adresser au peuple du Seigneur. Il va dire à Ésaïe, à la loi et au témoignage, si la parole de Dieu n'est pas clairement annoncée, il n'y aura pas de lumière pour le peuple. Allez, annoncez dans toutes les rues la parole de la vérité pour que la lumière jaillisse dans le cœur de mon peuple. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Notre monde, notre monde se croit sage. La Bible dit que si tu vois les stupides qui se prennent pour sage, il n'y a pas plus stupide que lui. On n'a pas la sagesse, sinon celle qui vient du Seigneur. C'est ça s'appuyer sur Dieu. C'est ça la foi. Voilà quand on s'appuie sur Dieu, que dit la parole du Seigneur, l'homme qui compte sur le Seigneur, il acquiert de l'assurance. Il est pareil à un arbre planté auprès de l'eau qui pousse ses racines vers le ruisseau. Il ne sent pas venir la chaleur. Son feuillage est toujours vert. Une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Et il ne cesse de fructifier. Et pourquoi la Bible nous compare à un arbre? C'est l'objet de la prédication du dimanche prochain. Pourquoi sommes-nous comme un arbre? Alors l'ennemi savait très bien qu'il ne pourrait pas empêcher Jésus d'accomplir son œuvre. Mais il va attaquer ceux qui font l'objet de la mort de Jésus. Voilà pourquoi l'ennemi ne vous laisse pas tranquille, mes bien-aimés. Il vous met dans le creux de la tempête. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui traversent la tempête. Tempête de la santé, tempête dans les relations familiales. Et vous sortez d'une situation, à peine vous retombez encore, c'est comme si une sorte de force vous amène dans les abîmes. Tendez-la vers le Seigneur. De sauvetage. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour vous. On va prendre le temps de prier. Ce que nous ne faisons pas assez. Ceux qui sont en difficulté de santé. Ceux qui ont l'impression d'avoir pas réussi. Oubliez ce qui est du passé. Défichez-vous un champ nouveau. C'est ce qui est dans notre cœur qui se manifeste autour de nous. Si nous avons un cœur qui est pur, une bonne terre, ce qui se gravite autour de nous également va dans la bonne direction. La nature est comme ça. C'est les choses de même nature que ça rassemble. Si vous voulez avoir le cœur de Dieu, laissez Dieu inonder votre cœur. Et votre cœur sera orienté vers lui. Sinon, votre cœur sera orienté vers autre chose. J'en conclue après avoir prié. Notre vie appartient au Seigneur. Il nous a promis qu'il sera un refuge fiable, un abri dans la tempête. Même toutes les hordes de démons de l'enfer ne peuvent rien faire contre nous si nous sommes dans le Seigneur. Mais si parfois dans notre vie, le Seigneur permet des assauts, c'est qu'il a un objectif pédagogique pour voir qui nous sommes. Parfois, il y a une difficulté à révéler nos caractères. Le frère ou la soeur qui est à côté de toi, Dieu l'a placé peut-être là pour te faire des tuiles pour que ce qui est en toi ressort, pour que tu saches qui tu es. Parfois, nous avons une fausse illusion de notre spiritualité. Si celui qui permet le vent, il permettra que les épreuves le sortent au-delà de ta force. Et il donnera la force de s'en sortir. Aujourd'hui, le monde, les nations, les familles, les individus sont devant l'inconnu. Oui. Et c'est par peur de l'inconnu que beaucoup vont consulter les désordres de bonne aventure. Voilà. Il y a plein. De quoi le lendemain sera fait? Vais-je garder mon mandat en tant qu'homme politique? Serais-je toujours le PDG d'une entreprise? Mais la parole de Dieu n'est pas un projecteur pour nous montrer ce qui va arriver là-bas. La parole de Dieu est une lampe grâce à Dieu. Même si nous ne connaissons pas les connus, Dieu, il le sait. La parole de Dieu seule illumine l'obscurité et éclaire l'horizon. Au moins dans ses grandes lignes. Et quant à l'avenir immédiat, Dieu demande aux siens de se confier dans sa promesse. Que leur vie soit dirigée par le principe de la foi. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la matérialisation des choses qu'on ne voit pas encore, mais qu'on voit dans le domaine de l'esprit. Car le Seigneur a promis de nous conduire par les sentiers que nous ignorons. Lui, notre Père Céleste, veut que nous nous reposions sur sa parole et la parole qui sort de sa bouche. Son sentier plus sûr pour quelqu'un qui lui appartient. Et parce que Dieu connaît tout cela d'avance. C'est lui qui est notre assurance. Notre avant-garde et notre arrière-garde. Je vous invite un instant pour que certains aspects de cette parole-là prennent vie en nous. Saisissez les aspects qui vous a percuté et présentez-le à Dieu. Cette parole est la tienne. Qu'est-ce que j'en fais, Seigneur? On me dit que dans ta maison, il y a des grâces pour tes enfants. Et tout le monde, moi, il semble que c'est illusoire, je ne la vis pas. Ou je ne la vis pas comme il faut. Que dois-je faire, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Si c'est la foi qui me manque, il y en a qui a dit, Seigneur, viens au secours de moi, l'incrédulité. Il faut le dire. Mais si c'est la voix du monde qui a envahi ma tête, c'est autre chose. Mais bien aimé, c'est avec amour que je vous parle. Veillez sur ce qui rentre dans votre tête. Quand vous allez au marché, vous allez voir de la nourriture, vous allez regarder la date de la préemption. De quoi cette nourriture est composée pour votre santé physique, n'est-ce pas? Mais je crois que beaucoup au milieu de nous le font. Mais je vous le conseille de le faire. Ça, c'est pour notre vie physique, ça. Mais ce qui est pour notre vie physique est pareil pour notre vie spirituelle. Veillez à ce que vous mettez dans votre tête. Veillez à ce que vous regardez à la télévision. Veillez à ce que les gens racontent. Et ce que la Bible dit. Nous allons prier pour trois sujets importants. Le premier pour le rafraîchissement spirituel. Pour une bonne santé spirituelle, émotionnelle et des rapports interpersonnels. Nos relations interpersonnelles sont malades. Nous avons besoin d'être rétablis. Premièrement. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne un cœur nouveau, un cœur fertile, un cœur fécond, un cœur dans lequel, lorsque tombe sa semence, elle se multiplie par 30, 60 et 100. Et nous allons prier pour une perspective nouvelle, individuelle et collective, vers où le Seigneur veut nous mener. C'est l'objet de ce message. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous invites à venir au zoo, nous qui avons soif. Et c'est pour ne rien d'autre que ta parole qui désaltère, qui purifie, qui transforme. Qui fait céder les obscurités de nos cœurs et qui laisse poindre ta lumière, et qui est destiné à nous transformer à l'image de ton Fils Jésus. Seigneur, donne-nous cette période de rafraîchissement. Accorde-nous d'avoir une santé spirituelle, émotionnelle, saine, afin que ta parole ne soit pas tronquée par la raison qui le dirige, mais que seule ta vérité redresse ce qui est tordu. Redonne de la vitalité à ce qui est évanoui. Redresse ce qui n'est pas droit. Et nous donne de marcher dans la pureté et la sainteté de Dieu. Merci pour ce que tu fais, toutes choses nouvelles, dans nos relations interpersonnelles. Fais sortir de notre environnement amical des gens toxiques et fais éconduire des personnes dont la présence et l'action nous aiderons à atteindre l'objectif que tu as établi pour nous, Seigneur. Pas d'attelage qui a une relation enrichissante. Merci pour nos cœurs, sur lequel le siège du Seigneur a été renversé. Il y a quelqu'un qui a pris la place du trône. Mais au nom de Jésus, pour moi-même, que ton trône soit établi, Seigneur. Et tu le fais autant pour me gagner ici. C'est toi notre Seigneur, c'est toi notre Sauveur. Et en te disant que tu es notre Dieu et notre Seigneur, nous avons tout dit. C'est une confession totale de la foi. C'est que tu dois prendre le contrôle de tout, Seigneur. Que tu nous donnes cette grâce d'avoir la simplicité d'un cœur ouvert, capable de recevoir ta parole sans rechigner, en te laissant travailler en nous. J'en viens, Seigneur. Tu ne nous appelles pas simplement à être à tes pieds pour jouir de bénédictions seulement, mais pour pouvoir en distribuer, à étendre. C'est pourquoi je prie aujourd'hui pour cette perspective nouvelle que tu viens de nous donner par ta parole, Seigneur, Ésaïe 43, que tu attends faire toutes choses nouvelles, que les choses anciennes sont passées. Car si quelqu'un est en Jésus-Christ, uni à lui, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles, autant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur. Laisse que cette prière nous pousse et nous conduise à la maison. Que l'ennemi ne vienne pas ôter cette semence qui est censée nous transformer et faire du bien. Et ceux qui sont malades de leur corps, ta parole est puissante et communique la vie. Car tu nous invites à aller prier pour ceux qui sont malades. Et nous prions pour que ta grâce se multiplie. Pas besoin d'imposer les mains. Toi, Dieu t'impose les mains par ta parole. Et à l'instant que tes enfants écoutent ce message, que le souffle de guérison rétablit tout leur fonctionnement métabolique. Ce qui est perturbé soit rétabli. Ce qui est traumatisé soit rétabli. Que leur cœur soit assaini. Que la joie du salut leur soit restituée et qu'une perspective joyeuse soit ouverte et que l'espérance de Christ puisse nous aller faire aller de l'avant. Nous te rendons grâce et nous te bénissons.